Le combat a commencé entre nous et Marie. Depuis devant jusqu'à l'arrière, le sang coula comme la lumière.
Raconte-moi notre histoire. Vous écoutez le premier balado historique sur le village de Tête à la Baleine. Épisode 17. La bénédiction des bateaux. Importance de la religion au village. Pendant ce projet, je suis tombée sur une série de diapositives sur lesquelles on peut voir des cérémonies religieuses au village datant des années 1980.
C'est qui t'a donné ça?
Ben, j'ai trouvé ça au presbytère, à la paroisse.
J'en ai profité pour interroger les gens là-dessus.
Moi, j'ai l'impression que c'est ça.
Ça, c'est la bénédiction des bateaux, je pense, là.
Ouais. Ça, c'est la bénédiction des bateaux. Ouais, tu vois les bateaux, puis tu vois les...
Je pense que
ça pouvait être ce dimanche-là. Tu sais, les bénédictions des bateaux, ben, c'est pas mal. La dernière année, il n'y a pas eu, là, mais en général, ça, c'était tous les ans parce que, tu sais, les pêcheurs commençaient à la pêche, puis c'était un peu une façon de... C'était surtout à Providence, ça s'est déjà fait au quai, là.
C'était à la Providence, surtout.
La bénédiction des bateaux. Il s'agit là d'un événement charnière dans la saison de pêche au village depuis des décennies. Ce n'est pas un hasard s'il se retrouve parmi les moments captés dans les quelques documentaires sur la région.
La bénédiction des bateaux, mais je pense que tu le vois un petit peu dans le film de Perrault.
On le voit dans le film de Perrault, puis on le voit aussi, je pense,
dans le film à Lucie. Ouais. Mais il était la... c'était au village, la bénédiction.
OK, actuellement, c'est à l'île Providence.
D'habitude, oui.
Traditionnellement, une fois dans l'été, la communauté de Tête à la Baleine se rassemble pour la bénédiction des bateaux sur l'île Providence. Cela a lieu au moins depuis l'arrivée du Père Dionne en 1948. Pour l'occasion, les barques nettoyées sont liées les unes aux autres et ornées de drapeaux, de guirlandes et d'oriflammes. La chaloupe du curé joint ce chapelet d'embarcations, décoré par les sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire dès leur arrivée au village en 1956.
Tous les bateaux de pêche, lesquels on faisait la pêche aux trappes, aux mares, au saumon, la palangre, tout se faisait avec ces bateaux-là qui étaient faits une toilette pour ce dimanche et décorés aussi. Le rassemblement se faisait en bas, sur le quai de chez M. Léo, M. Lionel Monger à l'époque. Après ça, ça a été au chapeau de mon père, c'était plus long à marche, là, mais le prêtre descendait avec la chape, le vêtement liturgique et l'enfant de cœur, habillé en enfant de cœur, comme on peut voir sur les photos. Et c'était un moment fort de la vie communautaire, même si les gens étaient un peu chacun sur son île. On se regroupait, on se retrouvait tous, pas juste pour la grand-messe, mais on se retrouvait pour la bénédiction des bateaux. Puis au-delà du geste religieux, était un événement socio-communautaire d'importance durant l'été.
Il y avait toujours ce geste-là d'envoyer, de jeter de l'eau bénite sur le bateau.
La journée se termine par des pique-niques familiaux sur les îles ou d'autres genres d'activités, comme nous le confie Dan Mauger.
S'il y avait des bateaux neufs avec des moteurs neufs, et souvent, après la bénédiction des bateaux, il y avait les fameuses races de bateaux, là. Courses de bateaux. Ça donne lieu à des emportements, des fièvres. Quel bateau c'est quel vite, quel bateau quel plus léger, là, ça, c'était. Alors, il y a des belles légendes de ce côté-là. Là. C'était la vie d'époque.
Dans les années du père Gabriel Dionne, la bénédiction des bateaux en juin sert à porter chance aux pêcheurs et permet de demander que Dieu les accompagne.
Habituellement, elle avait lieu aux alentours de la Saint-Pierre. C'est le 29 juin, c'est la fête de Saint-Pierre, l'apôtre Pierre. Avec le temps, ça s'est déménagé aux alentours de la fête de Sainte-Anne.
La bénédiction des bateaux possède alors une autre symbolique, plutôt de remerciement. La fête de Sainte-Anne est effectivement presque à la clôture de la saison de pêche, sur la fin juillet, comme nous le confirme le père André Laroche, prêtre au village de Tête-à-la-Baleine pendant plus d'une décennie.
C'était un peu comme un moment d'action de grâce pour la pêche qui avait été faite, plus ou moins réussie. Avec les années, ça pouvait varier. Mais en tout cas, on remerciait pour ce qu'on avait eu. Et puis, comme c'était lié à la fête de Sainte-Anne, que ça venait plutôt à la fin de la saison, il restait quand même encore quelques activités de pêche. Mais en général, alors, c'était un geste annuel, si tu veux, pour confier, demander la protection de Sainte-Anne et puis sa collaboration, on pourrait dire.
Sainte-Anne est choisie comme protectrice du village de Tête-à-la-Baleine par Mgr François-Xavier Bossé au tournant du 20e siècle. On retrouve une dévotion particulière à Sainte-Anne dans plusieurs autres villages de la Basse-Côte-Nord, des communautés Innu notamment, puisque les aînés y ont une place centrale et que Sainte-Anne, c'est en fait la grand-mère de Jésus. On retrouve aussi la présence de Sainte-Anne comme patronne dans divers villages de marins en France et au Québec, par exemple, en raison de récits de naufrages desquels elle aurait sauvé des pêcheurs.
26 juillet.
Elle est bien importante ici, hein, Sainte-Anne. Ah, les deux églises s'appellent comme ça, la paroisse s'appelle comme ça.
Elle est bonne, Sainte-Anne.
Comme la bénédiction des bateaux et l'importance de Sainte-Anne le représentent si bien, la pêche influence le rapport à la religion à Tête-à-la-Baleine. On voit donc que certains récits bibliques sont privilégiés par les curés et missionnaires au village, tels que la pêche miraculeuse ou la tempête apaisée.
On s'en servait d'un de ces textes-là de l'Évangile sur la pêche miraculeuse ou sur la tempête pour la bénédiction des bateaux. Le ciel au fond de la chapelle de l'église de Tête-à-la-Baleine, alors, est quand même aussi houleux, là.
Une houle rappelant une tempête en mer sur cette peinture située derrière le cœur de l'église du village. On retrouve aussi, sur l'autel de la chapelle du large, des filets de pêche et des cages à homards.
Comment veux-tu que je te parle de la religion? Moi, je parlais de la religion.
Ah, parle-moi de la tienne que tu faisais, toi, dans le temps que tu étais jeune.
Si moi, la mienne que je faisais, dans le temps que j'étais catholique, hein, je faisais ma religion. Le soir, je faisais ma prière, je faisais ma religion, mon commencé pour le soir. Puis ensuite, dans le temps qu'il y avait des curés et sept, j'allais à la messe tout le temps, je faisais mes missions. Hein?
Ouais.
Je faisais mes missions, puis je parlais de ma religion, la mienne. Je ne parle pas de ceux des autres, que le bon Dieu les bénisse. Dans ce temps-là, on avait le père à tous les ans. Hein? On avait un missionnaire à tous les ans. Quand un missionnaire venait, on faisait notre mission, puis c'était beau. Très beau. Il n'y avait pas un manque là-dessus.
Dans l'extrait de cette cassette datant d'environ 50 ans, on vient d'entendre Elzéar Mercier, qui raconte ses souvenirs du temps où les missionnaires ne venaient au village qu'une fois par année. Les évêques, de leur côté, ne visitaient l'endroit qu'une fois tous les 5 ans. En fait, jusqu'en 1948, tous les prêtres qui viennent au village de Tête-à-la-Baleine ne sont que de passage. Il s'agit alors d'un grand événement, puisque plusieurs sacrements peuvent être effectués. Le village de Terre étant jusque-là dépourvu d'église, ces événements se tenaient alors dans les maisons ou les écoles. Les gens vont se confesser, chantent les services de funérailles a posteriori, célèbrent des mariages et font baptiser leurs enfants, qui ont parfois déjà atteint l'âge de 6 mois. Le docteur Donald G. Hodd, ancien président du Conseil économique de la Basse-Côte-Nord, disait que les autorités religieuses étaient alors considérées comme des demi-dieux et que leurs mots étaient bus par certaines personnes du village, que les curés soient compétents ou pas. Toutefois, des extraits d'enregistrement démontrent que cela n'était pas vrai pour tous et toutes, spécialement pas pour Elzéar Mercier.
Tu te rappelles?
Des curés, quand je me rappelle, tu me prends une affaire des curés, moi je suis pas de ça.
Non, mais même si t'es pas de chum avec, c'est ça, si tu les haïs, là, tu dois te rappeler le premier.
Les haïs, bon, les haïs, bon. Moi, j'ai mon idée là-dessus. Hein? L'idée d'un autre, c'est pas la même chose. Hein?
Malgré tout, on sent dans le discours de cet homme une certaine admiration pour quelques prêtres et missionnaires.
Bon, ensuite, le deuxième père qu'on a eu, le père Stry. Vous connaissez pas le père Estry, hein?
Le père François Estry, un père eudiste passant à Tête-à-la-Baleine entre 1911 et 1931, fait justement partie des figures catholiques parmi les plus glorifiées au village.
Père Estry, c'était un Français. C'était pas un père au blanc, c'était un bon père, aussi. Un bon missionnaire. C'était un père qui faisait attention à tout le monde. C'était un gars, le père Estry, là. Il faisait la quête. Puis le plus beau ville là-bas. Hein? Oh, je fume pas la cigarette, ma vie. Non. Le plus beau ville là-bas, père Estry. Un bon père.
Monseigneur Napoléon Labrie, eudiste également, présent à Tête-à-la-Baleine ponctuellement de 1932 à 1938, est aussi parmi les plus respectés. En tout, ce seront environ 14 prêtres qui passeront ou séjourneront à Tête-à-la-Baleine pendant le 20e siècle. Celui qui marque le plus les esprits, c'est sans contredit le père Gabriel Dionne, oblat de Marie Immaculée et premier missionnaire à s'établir de façon permanente à Tête-à-la-Baleine en 1948.
Pour être franc, je décrirais plus Gabriel Dionne comme un travailleur social, un bâtisseur, un pionnier, que le réduire à l'expression missionnaire ou curé, c'est vraiment réducteur. Il pouvait être enrageant comme 10, il pouvait être, quand il avait... Il en tête, il est attendu comme une mule. Mais mon Dieu, ça nous prenait des gens comme ça, peut-être, à ces époques. Mais, une sensibilité de petite fille, une sensibilité à faire peur, mais, un bâtisseur.
Oui, il a fait différentes choses, le père Dionne. C'était un homme très, très habile. Et oui, puis il y avait un tour pour faire la poterie, il a montré aux gens aussi. Mais là, il est parti, après ça, il était malade, puis il est parti. Moi, je l'ai connu juste un an, père Dionne. C'était quand même un homme brillant, là. C'était un homme intelligent, puis habile dans toutes sortes de choses. Il était très un homme de grande valeur, oui.
Bien, je sais que quand le père Gabriel Dionne est parti de Tête-à-la-Baleine, on lui a fait une fête. Ça, c'est sûr. C'était le prêtre par excellence dans notre village, là. C'était le potier, c'était l'agriculteur, c'était le gars de la caisse populaire, c'était finalement, c'était probablement l'homme je dirais pas d'éducation, mais d'instruction.
On a été chanceux, on a toujours eu des bon, comme les curés, puis ça aussi. Le curé qu'on avait redosé le Padillon, je vous dis qu'il en a fait des affaires. Les autres, ils savent à où s'adresser pour obtenir des choses que nous autres, on n'aurait pas su où aller.
Dan Mauger, Sœur Hélène Côté, Camille Nadeau et Douglas Green font tour à tour l'éloge de ce missionnaire à l'origine de plusieurs initiatives pour le village. En collaboration avec Mgr Schaeffer, puis avec le soutien et l'aide de la communauté et de frères Oblat, il implante une série d'institutions communautaires. Un dispensaire en 1949, une église et un presbytère entre 1949 et 1952, une caisse populaire en 1954, un nouveau couvent qui sera aussi une école dès 1956, la construction d'un quai et celle d'une route entre le quai et le village dans les années 1960. En tant que premier prêtre permanent, le père Gabriel Dionne instaure aussi la messe solennelle à tous les dimanches dans l'église et il avait sa façon bien à lui de faire ou de ne pas faire de discours lors de ses messes.
Autant il était prédicateur à l'extérieur, chez nous, au village, à Tête-à-la-Baleine, il était zéro plus une barre pour ses homélies, qui quand il voulait faire une homélie qui avait de la pogne ou ces choses-là, ça finissait dans les larmes. La messe du jour de l'an, là, c'était pas reposant, là. L'émotion grimpait de la communion, là. Funérailles, il n'y avait pas d'homélie. Moi, j'ai vu qu'il y avait des homélies à des funérailles quand je suis allé à l'extérieur du temps, du Père Dionne, où qu'il y avait un prêtre qui venait de l'extérieur, il y avait des homélies. Mais quand c'était le Père Dionne, il n'y avait pas d'homélie. Pareil, c'est un homme physiquement grand, là. C'est un grand homme aussi. Mais physiquement, il a une sensibilité, une persévérance dans ses projets, un entêtement, un dévouement, là. Non, c'était quelqu'un.
Le Père Dionne inaugure aussi les chorales et la guitare lors des messes. Une femme qui, justement, jouait de la guitare à l'église nous raconte ses souvenirs accompagnés de son mari.
On avait une chorale. Quand on avait les sœurs, les bonnes sœurs étaient là. Il y avait une sœur qui s'occupait de la chorale.
Okay.
Puis elle-même, elle jouait de la guitare. Ça fait que, tant qu'il y avait des curés, là, on allait jouer le dimanche. Dans ce temps-là, bien, tous les dimanches, j'avais une pratique. Ma sœur, je ne touche plus à ça.
Non.
Moi, j'allais prendre ma retraite. Je joue quand il y a des funérailles, mais je trouve ça dur parce que c'est dur sur les doigts. Tu sais, quand t'as pas de corne de fête, là, c'est.
Mais à l'époque, tu jouais tous les dimanches. Fait que là,
fait que je gardais, je me pratiquais.
Mais dans nous autres, on était jeunes, ben, on sort dans la messe. On était jeunes, puis le temps des fêtes, là, il y avait une grosse chorale, une chorale d'hommes.
Oui, dans
le. Quand, des hommes.
Ça, c'est avant que je sois au monde. Ben, non. Peut-être un peu après, là.
Après.
Ouais.
Puis, quand il venait, il y avait des infirmières qui venaient, là, pour le dispensaire. Puis, eux autres, là, d'après moi, ils jouaient tout l'harmonium. Il y avait un harmonium dans la.
Ben oui, au JP en haut, oui.
Garde Gérard, elle jouait de l'harmonium, puis on allait au cœur de chant. On allait s'exercer à son dispensaire avec elle, là, pour s'exercer pour la messe. Eux autres, dans le temps, ils appellent ça un harmonium. Mais je dirais, c'est comme un piano qu'on appelle aujourd'hui. Un harmonium, H-O-R-M-O-N-I-U-M.
Cette musique mettait un dynamisme dans ce qui était une obligation pour plusieurs.
On allait à la basse messe, qui était à 7h30. Il fallait être à jeun parce que pour communier, il ne fallait pas avoir déjeuné avant. Il fallait être à jeun pour recevoir le corps du Christ. Ça, c'était précieux. Puis après ça, tu avais la messe de 11h qu'on appelait la grand-messe. Donc là, c'était une autre messe où est-ce que c'était une messe qui était chantante. Puis là, ça rassemblait un peu plus de monde parce que les gens qui étaient plus matinales allaient à la basse messe. Puis ça, c'était le dimanche. Puis après ça, à 13h, c'était le salut. Alors, c'était des vêpres. C'était une autre séance que l'Église catholique prônait à ce moment-là. Mais on n'était pas obligé d'aller aux vêpres, mais on était obligé d'aller à une des deux messes du dimanche.
Camille Nadeau se souvient bien de sa participation aux messes dominicales.
On était plusieurs servants de messe, là. On était jusqu'à 750 de population. Ça fait que, puis c'était des grosses familles. Ça fait qu'on était peut-être une vingtaine de garçons, là, qui étaient déguisés en servants de messe, là, avec la soutane noire, le surplis blanc par-dessus, tout bien empesé, tout blanc. Toujours préparé par les sœurs du Saint-Rosaire. Puis quand c'était plus le temps de Noël, ben là on avait la grosse boucle rouge qui venait décorer notre surplis blanc. Puis là ben quand le prêtre rentrait pour la cérémonie religieuse, ben on était toute la tralée d'enfants de cœur qui allait s'installer dans les bancs dans le cœur. Ça fait que ça faisait un cœur beaucoup plus occupé que ce qu'on voit aujourd'hui.
Il faut aussi dire que le dimanche, jour du Seigneur dans la religion chrétienne, était respecté depuis bien avant l'arrivée d'un prêtre permanent.
Moi, je me rappelle mon père. Mais moi-même, quand j'ai fait la pêche, j'ai commencé à pêcher. Là, il dit, il n'y a pas de dimanche. Tu sais, mon père, lui, quand il a commencé, quand il pêchait, lui, ça sacré le dimanche. Là. Il n'allait pas ses filets le dimanche. Puis,
mis à part cette journée-là, d'autres moments dans la semaine étaient aussi imprégnés de la religion catholique au village, comme l'heure du chapelet.
C'était toujours important l'heure du chapelet, hein. Puis des fois, ben j'ai des grands frères ou même peut-être moi, on était sortis après le souper, puis là on se faisait crier, Camille, c'est l'heure du chapelet, il faut que tu rentres là. Et puis là, ben les autres prénoms de mes frères, ça faisait entendre aussi, parce que il y en a d'autres qui tardaient, il y en a qui tardaient à venir plus longtemps que d'autres. Ça fait que quand tout le monde est arrivé à la maison, ben là, c'est à l'heure du chapelet. Mais pendant l'heure du chapelet, on avait toujours des comédiens agenouillés dans le salon, là, qui imitaient certaines personnes avec des paroles plus ou moins bien prononcées, qui faisaient rire tout le monde, parce que on n'avait pas de télévision, mais on se la faisait, notre télévision. On se la faisait. Puis il y a des bouts que ma mère, fallait qu'elle fasse la discipline durant le temps du chapelet parce que le fou rire devenait plus important que la continuation du fameux chapelet. Et puis on avait bien du plaisir parce qu'on savait que tel frère allait jouer son rôle durant le chapelet. Ça fait qu'on manquait pas ça. C'était une tâche obligatoire, mais chez nous, c'est devenu un petit peu une tâche théâtrale.
En général, le monde, dans ce temps-là, c'était-tu un peu tout le monde, c'était-tu plus pieux qu'on était à cette heure?
Dans ce temps-là, le monde était bien mieux pour la religion qui sont à cette heure.
Du moment où les croyances religieuses imprégnaient le mode de vie, la politique, l'éducation, la santé et les finances, jusqu'à aujourd'hui, la présence du catholicisme au village a bien changé. Un changement qui s'est amorcé il y a déjà quelques décennies, comme nous le confie Camille Nadeau.
Tantôt, on parlait d'obligation. Après ça, c'est ça, la télévision est arrivée. Oh là là! Moi, j'étais rendu à Havre-Saint-Pierre, jeune enseignant. Je communique dans le temps des fêtes avec ma famille qui vit toujours à Tête-à-la-Baleine. Puis, le curé a été surpris quand il s'est vu la messe du jour de l'an avec si peu de monde dans son église, mais la télévision venait de rentrer avec son bye-bye. Fait que le bye-bye est devenu plus populaire que la messe du jour de l'an. À cette heure-là, parce que la messe se faisait en soirée. Fait que le curé, l'année d'ensuite, ben, il a mis sa messe probablement à une autre heure, où est-ce que la population allait être plus participante?
Bien, actuellement, il n'y a plus de prêtre à Tête-à-la-Baleine. Non, il n'y a plus de prêtre.
Mais que pensent ceux et celles qui ont justement vécu ces changements dans le rapport à la religion? Les verbatims d'anciennes entrevues retrouvées dans les archives au village nous révèlent cette citation. C'était bien le fun, mais le changement a été bien apprécié.
Le capitaine a demandé à qui que canot j'en blessais.
Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Père André Laroche, Camille Nadeau, Pierrette Vignon, Mireille Monger, Sœur Hélène Côté, Douglas Green et d'autres personnes qui désirent demeurer anonymes. Sans leur participation, ce projet aurait été impossible. C'est pourquoi, en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe de la radio CJTB, je les remercie chaleureusement. Vous avez aussi entendu des extraits de cassettes enregistrés sous l'initiative Dave Gravel dans les années 1970, dont certains audios ont été optimisés par les productions du garde-robe. Un merci spécial à Lisette Monger de nous avoir partagé ses trésors et à Alain Vallière de nous avoir aidés à les valoriser. Pour des informations complémentaires, des anecdotes sur cet épisode ainsi que des photos d'archives, par exemple, de la bénédiction des bateaux, rendez-vous sur le site web de la radio CJTB sur la page du balado « Raconte-moi notre histoire ».